appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Capi. Pour lutter contre le chômage en RDC, l'Institut National de Préparation Professionnelle et l'Unité de Coordination des Management de Projets ont lancé le vendredi 25 juillet une vaste campagne de sensibilisation de recrutement de 300 jeunes pour une formation gratuite aux métiers divers liés au secteur de l'eau et de l'électricité. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet AGRE, projet d'accès, de gouvernance et de la réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau, un projet financé par la Banque mondiale. Selon l'UNPP, cette formation vise à promouvoir les emplois verts, mais aussi à remédier à la précarité d'une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de l'électricité et de l'eau. Toujours selon l'UNPP, cette formation vient appuyer la vision du chef de l'État dans la lutte contre le chômage, car ces jeunes vont bénéficier des compétences techniques et entrepreneuriales pouvant leur permettre de travailler dans les entreprises privées ou publiques, de créer leurs propres activités. Cependant, s'il est vrai que ces gens d'initiative sont louables dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, d'aucuns estiment qu'en RDC, les critères de sélection dans ces genres de formations ne se font pas toujours en toute transparence et qu'après la formation, il n'y a généralement pas de mise en place des mécanismes de suivi pour s'assurer de l'insertion professionnelle effective de ces jeunes. Que pensez-vous de cette campagne initiée par l'INPP et l'UICEM dans le cadre de la lutte contre le chômage chez les jeunes et plus précisément dans les secteurs de l'eau et de l'électricité? Votre chanson, les bienvenus sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez s'écrire à l'adresse p@radiocapi.net ou réagir dans le WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 9 71 6 80 79. Debs Vita est à la mise en ordre de ce magazine et Julie Feza Bongonda à la réalisation et la coordination au micro, c'est Marcel Ngobala. Tout et à tous et sans condition d'écoute, ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Paroles aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs, mais aussi dans le WhatsApp de Paroles aux auditeurs par rapport à ce sujet où on va parler de cette campagne de recrutement des jeunes pour la formation métier de l'électricité et de l'eau. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Idriss Moufouka Koudié. Bonjour.
Bonjour, cher Marcel.
Voilà, vous êtes expert en énergie renouvelable et assistant du directeur technique de l'INPP avec vous. On va échanger avec les auditeurs pour en savoir un peu davantage sur cette campagne de recrutement pour la formation des jeunes au métier de l'électricité et de l'eau. Alors, d'entrée du jeu, essayez de nous parler un peu pourquoi cette campagne et pourquoi le métier, pourquoi les jeunes vont être formés dans les secteurs de l'eau et de l'électricité.
Alors, il faudrait d'abord savoir que, comme vous l'avez annoncé, le gouvernement congolais a un partenariat avec la Banque mondiale pour le développement du secteur de l'électricité et de l'eau. Et il y a déjà quelques projets qui sont en train d'être mis en œuvre à travers le pays. Et dans ces programmes d'accès, de gouvernance, de réforme, des secteurs de l'électricité et de l'eau, il y a un volet sur le capital humain. Et nous, en tant qu'Institut national de préparation professionnelle, en notre qualité d'organe technique du gouvernement congolais sur la qualification professionnelle, et nous avions été contactés par l'UICEM pour pouvoir mettre en œuvre c'est un programme de formation. Et il faudrait savoir que nous avons au total 7 métiers
qui sont... L'UICEM, c'est l'unité de coordination des managements de projets.
Exactement. Ouais. C'est une unité qui est sous tutelle du ministère de Ressources Hydrauliques et Électricité.
Okay.
Et dans le cadre de cette convention, nous avions 7 métiers qui sont retenus. En ce qui concerne le secteur des l'eau, nous avons les plombiers sanitaires. Nous avons les techniciens installateurs des réseaux d'addiction d'eau potable. Et du côté électricité, nous avons l'électricien des bâtiments comme métier. Nous avons les techniciens de maintenance des machines électriques. Nous avons les techniciens d'exploitation des mini-centrales hydroélectriques. Et nous avons également les techniciens d'exploitation des centrales solaires. Et la question, pourquoi ces choix de ces sept métiers? C'est vrai qu'il y a des métiers traditionnels comme la plomberie, l'électricien de bâtiment, mais aujourd'hui, le secteur de l'électricité présente un déficit en termes de la main-d'œuvre qualifiée, dont la gestion et la pérennisation des ouvrages énergétiques, malgré la présence des écoles d'ingénieurs à travers le pays. Et il y a un besoin criant et en termes de spécialité. Partant de ces besoins que nous avions mis ces programmes en œuvre, et pourquoi lancer la campagne? Parce que c'est un projet qui est ouvert au grand public. On ne pouvait pas procéder par un recrutement d'une manière discrète, qu'il faudrait les rendre publics et respecter la loi, mais également la règle sur les processus de recrutement des candidats et surtout que c'est une formation gratuite.
Voilà, mais si la campagne a été lancée le vendredi 25 juillet dernier, ça va se dérouler pendant combien de temps et comment ça se passe concrètement pour s'inscrire?
Alors, normalement, nous avions lancé la campagne le 25, donc ça va du 25 juillet jusqu'au 25 août 2025. Et comment y prendrait part? Et il y a un site internet qui est mis en place sur ça. Donc, il suffit de taper www.inpp.usem.recrutement.com. Donc, je reprends www.inpp.usemrecrutement.com. Et là, toutes les conditions sont très bien détaillées pour se faire enregistrer. Mais je précise que c'est vrai, la campagne était prévue pour 30 jours. Mais déjà, à moins de 70 heures, on est déjà à 70%
Ça démontre combien il y a un problème sérieux de chômage des jeunes.
Il faut préciser qu'au-delà du problème de chômage, certes, les nombres que nous avions retenus pour cette première phase est signifiant, mais faible. Et ça, c'est le premier élément. Mais il y a aussi l'intérêt apporté sur ces métiers. Parmi ces sept métiers, il y a des métiers qui n'existaient pas dans la majorité des programmes de formation, que ce soit universitaire ou professionnel dans notre pays. Et donc, c'est une opportunité pour des jeunes d'emboîter les pas et pour être formés, non seulement pour les projets agréés, mais également pour les autres entreprises, pour toute entreprise qui aimerait avoir ces genres de compétences.
Donc vous parlez des 300 jeunes, et il y a également des conditions fortes et diplômés d'État, et puis être âgé des 18 à 30 ans, c'est bien cela.
Oui, alors il faut savoir qu'en formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle de prérequis, ou les conditions d'accès pour chaque métier. Je précise également que c'est un projet qui concerne les villes de Kinshasa, Matadi, Kananga et Mbujimayi pour cette première phase. Et pour chaque métier, il y a des prérequis. Je donne un exemple. Pour accéder, par exemple, au métier du plombier sanitaire, il suffit d'avoir un certificat de cycle court ou un diplôme d'État ou universitaire et dans le domaine de la construction, mécanique générale, hydraulique. Et par exemple, pour les métiers du technicien d'exploitation des mini-centrales hydroélectriques. Et celui-là, il faut avoir au minimum un diplôme d'ingénieur technicien, donc à partir du cycle des graduats, dans les domaines de l'électricité générale, mécanique générale, mécatronique, hydraulique et énergie renouvelable. Donc, et il faut avoir au minimum ces prérequis. Et je pense que les candidats intéressés, ils peuvent avoir tous ces détails sur les sites internet qui est mis en place. Je rappelle www.inpp.usmrecrutement.com.
Voilà, on a reçu beaucoup de réactions par rapport à ces questions de recrutement, que ce soit au niveau de l'INPP, que ce soit au niveau d'autres structures de pays. Beaucoup estiment que ça, ces recrutements ne se font pas en toute transparence. C'est pour les cas de l'INPP. Il y a ceux qui disent également que généralement après cette formation, il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer de l'insertion professionnelle des jeunes qui ont été formés.
Alors, je voudrais apporter une précision. C'est vrai que notre pays est habité à des fois à ces genres d'attitudes. Mais dans le cadre de ces projets, et je dois préciser qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place pour ne pas tomber dans ces pièges. Et pour votre information, le concours est lancé, les sites internet est géré par une sous-commission mixte entre l'INPP et l'UICEM. Et pour les candidats qui pourront, par exemple, avoir des difficultés de s'inscrire en ligne, ils vont déposer leurs dossiers dans les entités de l'INPP impliquées dans les projets. Et ces entités vont nous envoyer les dossiers sous pli fermé. Et chaque dossier a un numéro, a un code, et ce qui fait que la présélection ou les traitements de tous ces dossiers se fera en fonction de ces codes. C'est effectivement pour éviter un certain esprit de favoritisme ou faire une sorte de discrimination. Je pense que nous sommes en train de faire un effort pour que ces recrutements soient faits d'une manière rationnel et par rapport au mécanisme d'insertion professionnelle, j'ai rappelé également que la règle en formation professionnelle prévoit le transfert des compétences, mais également l'accompagnement dans l'insertion professionnelle. Donc il y a ce qu'on appelle le suivi post-formation et tout est prévu dans le cadre de ces projets et on est déjà en contact avec des entreprises privées mais également publiques qui aimerait absorber cette main-d'œuvre qualifiée qui sera formée au niveau de l'INPP, au-delà de quelques projets qui seront lancés bientôt dans le cadre du projet AGRÉ. Je rappelle que le projet AGRÉ prévoit 90 MW en Bougimaï, des solaires, 70 MW à Kananga. Et ces deux zones font partie également des provinces ou des villes qui sont ciblées dans le cadre de ces projets. Donc, de ces côtés-là, je pense que nous devons garder notre calme. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait qu'on ne puisse pas ouvrir ces concours à un grand nombre, parce que sinon, on risque d'avoir ces problèmes d'insertion. Mais je crois qu'avec les 300 candidats, pour cette première phase, on peut quand même gérer non seulement le transfert des compétences, mais également le processus d'insertion professionnelle.
Donc là, on comprend que toutes les dispositions sont déjà prises de manière à ce que ce jeune, une fois formé, en tout cas, puisse effectivement être inséré dans la vie professionnelle. On revient à vous, ingénieur Idriss Moufouka Koudié, pour continuer à parler de cette question, de cette campagne de recrutement de jeunes pour la formation métier dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PC, votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, composez les zones en 976-80-79.
Parole aux auditeurs.
Avant d'ouvrir le standard, cette réaction de Marcel Maïk depuis Kananga, je tiens à saluer cette campagne lancée par l'INPP et l'UICM car le chômage de jeunes a pris une grande place au Congo par manque d'entreprise, d'esprit de créativité et d'une bonne formation de la part des jeunes. Ceci devrait se passer dans toutes les provinces plutôt que de cibler seulement quelques villes. Voilà, ça c'est Marcel Maïk depuis Kananga. On ouvre le standard avec le tout premier auditeur qui nous appelle depuis Kisanga. Il s'agit de blessés. Dis blessés, vous avez la parole.
Oui, bonjour cher Marcel. Bonjour à l'invité. ainsi qu'auditrices et auditeurs de la radio Kabi. Justement, la thématique était trop pertinente vu la situation de chômage dans notre pays, puisque le chômage en Afrique, au Congo, c'est quelque chose que nous disons toujours que non, ça fait partie d'une situation contemporaine. La campagne est initiée conjointement par l'UNPP et l'ISM pour lutter contre le chômage des jeunes dans le secteur de l'eau et de l'électricité en RDC constitue une initiative stratégique et innovante, cher Marcel, en mettant l'accent sur le métier vert. Bon, cette démarche s'inscrit dans une dynamique de formation qualifiante, d'insertion telle que l'invité avait déjà parlé, professionnelle et de transition énergétique, cher Marcel. Donc, cette campagne a le mérite d'associer la formation technique gratuite d'insertion sur le marché du travail et la promotion de l'entrepreneuriat vert, tout en ciblant le secteur névralgique pour le développement du pays, cher Marcel. Cher Marcel, cette campagne conjointe, telle qu'on avait déjà annoncé plus haut, bien qu'elle constitue une initiative encourageante, ne suffira pas à elle seule significativement le chômage massif des jeunes en République démocratique du Congo, notre bon cher pays. Toutefois, elle peut avoir un impact réel et ciblé en condition d'être bien géré, étendu et intégré dans une stratégie nationale plus large. Elle peut être le point de départ stratégique, cher Marcel, un projet pilote promoteur et modèle duplicable si elle est bien accompagnée, cher Marcel, évaluée et élargie. Néanmoins, toujours, cher Marcel, c'est une goutte d'eau dans un océan de chômage, mais une goutte utile, ciblée et intelligemment pensée. Cher Marcel,
voilà,
je donne ici l'état à d'autres personnes qui viendront après moi, mais je vais quand même demander ça à l'invité pour nous éclairer quand même. Quels mécanismes peuvent-ils mis en place pour étendre ces programmes dans d'autres villes de la RDC ou d'autres provinces de la RDC?
Voilà, merci beaucoup, Bessadi, c'est bien noté. L'invité va réagir par rapport à ta question. Et on quitte Kisangani pour Kinshasa. On a en ligne Dr Vika Batundi. Dr Vika, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je remercie la radio Kapi pour ce thème important. En fait, le projet il est salutaire parce que le monde d'aujourd'hui migre vers l'économie verte et la transition énergétique. Et c'est déjà que le projet ne peut que recevoir l'équité totale de nous en tant qu'acteurs de la société civile nord-investisseurs, parce que je suis actionnaire de l'entreprise de développement de l'énergie, EDN Afrique. Et là, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit que les jeunes doivent les capitaliser parce qu'il y a de l'avenir. Mais j'ai une crainte par rapport au mode de fonctionnement, par exemple, lorsqu'on recrute dans des institutions. Et la crainte majeure que j'ai, c'est par rapport à la politisation de certains projets par les autorités, c'est pas moi moral, qui peuvent mettre la pression au panel de sélection à travers des recommandations, et les recommandations qui ne bénéficient que aux membres des familles biologiques et des familles politiques. Et donc là, je voulais attirer l'attention du panel de sélection pour accorder la chance à tout jeune qui va manifester l'intérêt, parce que quand quelqu'un présente sa candidature et qu'il ne reçoit même pas le feedback, ça décourage. Donc, pour nous, le projet doit être soutenu et j'encourage tous les jeunes à soumettre leur candidature pour voir que s'ils peuvent être retenus. Et peut-être Le projet ne devait pas se limiter seulement à la zone couverte actuellement. Il serait mieux que le gouvernement puisse initier ce genre de projet dans d'autres zones, parce que l'électricité et l'eau sont des arrêts vitaux et dont le besoin est énorme en termes de quantité et de qualité. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire en manifestant mon soutien à ce projet et en encourageant les parties prenantes.
Voilà, merci beaucoup Dr Vicar Batundi d'avoir appelé depuis Kinshasa et merci également d'avoir exprimé vos craintes hein, sur la politisation de ces genres de projets dont vous demandez au panel, en tout cas l'équipe de l'NPP et de l'UCEM de bien tenir compte de cet aspect-là. Merci Dr Vicar Abda. Depuis Mahagui, nous avons en ligne Sylvain Guenoff. Sylvain, on vous écoute, vous avez la parole.
Bien. Monsieur Marcel, vous me suivez?
C'est bon, on vous suit 5 sur 5. Allez-y, Sylvain, on vous écoute.
Je souhaite à toute l'équipe PPA répondre. Je salue l'invité. Monsieur Marcel, vous avez senti les deux premières interventions. Tous, ils ont posé des problèmes. Le premier problème, c'est le problème apparent et des fois des subjectivités de sélection des bénéficiaires des projets. Et ça, c'est la situation de notre pays. Et c'est comme ça que vous allez m'autoriser, messieurs, de poser des questions directes à l'invité.
Allez-y.
Sur base de quels critères l'INPP sélectionne, puisque c'est ça la préoccupation des sélectionne les zones de terrain. Est-ce que ce n'est pas lié à une personnalité quelconque qui n'est plus pas contre une région de la République démocratique du Congo? Mais j'ai une raison de penser que dans la situation actuelle du pays, puisque nous parlons des chômages, tout le monde sait que la partie orientale est touchée avec les violences armées et les acteurs sont les jeunes. Comment est-ce que nous nourrissons une politique ou nous construisons une politique dans le sens d'extraire ces jeunes des groupes armés pour être utile à la nation alors que nous sommes en train d'implémenter des projets qui pouvaient aider à stabiliser la RDC dans des zones au moins stables? C'est une question, au même moment, une proposition. Est-ce que ce n'était pas bien que ces projets sur l'eau ou l'énergie puissent être implémentés dans des zones frappées par les violences armées pour que les jeunes gens quittent ces camps terroristes et soient occupés? Je prends des cas de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce sont des provinces agro-pâtes. Si les jeunes doivent être démobilisés du coup, il faut qu'on leur donne l'emploi. Mais la création de l'emploi dépend à grande partie de l'eau et de l'énergie. Mais lorsque nous attendons certains projets en train d'être implémenté dans la plupart des cas, c'est implémenté dans des zones stables. Je me mets à la peau des autorités provinciales du tourisme, du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui, je sais, chaque jour, ils adressent des recommandations pour moi central. Aidez-nous à stabiliser nos provinces par des emplois pour que les jeunes activent les groupes armés. Mais lorsqu'un projet arrive, ces gouverneurs de province ou ces provinces occupées par les groupes armés ont tout simplement abandonné. En tout cas, monsieur l'invité, je ne suis pas contre les autres parties de la République démocratique du Congo, mais sur base de quels critères vous choisissez ces zones?
Sylvain, vous avez déjà posé la question sur base de quels critères, mais progresser, c'est quoi la deuxième question? Vous n'allez pas encore revenir, vous l'avez déjà dit sur base de quels critères. Allez maintenant la deuxième préoccupation aussi, vous l'avez.
Deuxième question.
Oui.
est-ce que l'INPP est implanté dans tous les territoires et surtout dans les zones touchées par les groupes armés? L'INPP est un outil important pour la professionnalisation des jeunes et même de toutes les catégories de la population.
Voilà, merci. Sylvain Aguenoff, depuis Magui et au-delà, on y va cette fois-ci, hors de nos frontières. Pour écouter Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole.
Oui, bonjour à vous tous au studio. Merci beaucoup pour la parole accordée. Le sujet en soi est très, très pertinent. Les objectifs, il faut commencer par saluer parce que il n'y a pas de sous métiers, il n'y a que des sortes gens du temps. Et s'il y a de telles opportunités accordées à nos jeunes financées par la Banque mondiale, on ne peut que saluer gracieusement en demandant, en encourageant nos jeunes gens de l'exploiter convenablement jusqu'au bout parce qu'il en va de leur avenir. Et je crois que par rapport à ce qui doit se dire, nous devons aussi arriver à faire les équilibres. Parce que les latinistes disent « pecunia non olet », l'argent n'a pas d'odeur, si on peut le traduire littéralement. Pour gagner son argent, on n'a pas seulement, on n'est pas forcément, on ne doit pas seulement faire de la politique ou faire seulement des très longues études, mais à partir d'une formation, on peut avoir accès à une profession rémunérée et on peut gagner sa vie. Et par rapport aux trois observations qui venaient de se passer, je crois que les problèmes que nous avons chez nous, c'est presque le même. On commence, il y a des initiatives qui sont lancées au niveau de la presse, au niveau de vos zones. Il y a engouement des jeunes, mais la crainte, c'est maintenant au niveau de mécanismes de suivi. Parfois, c'est tellement politisé au point que ce qui est dit ici sur vos zones ne serait qu'une affaire de quelques familles de nantis ou de quelques regroupements politiques. Puis des deux, parfois, on se rend de plus en plus compte que notre gouvernement lance des initiatives qu'il ne sait pas canaliser à la suite. Je me réfère là, par exemple, à la gratuité de la maternité. On a lancé, mais après, on apprendra que les hôpitaux résilient des contrats, les médecins sont à grève, les personnels médicaux ne sont pas payés. Est-ce qu'on n'aurait pas maintenant à refaire la même expérience? On forme les gens, on les recrute et demain ou après-demain qu'on nous apprenne que les bénéficiaires doivent encore payer des taxes X, Y dont des traçabilités ne seraient connues qu'au niveau de celui qui va les insérer parce que nous savons un peu ce qui se fait chez nous. Et la dernière observation pour moi, c'est un souhait. La République démocratique du Congo est tellement vaste avec ses 26 provinces. Je crois qu'il aurait été juste par rapport à ce que le compatriote Sylvain venait de dire, je le salue en passant, qu'on puisse d'abord peut-être cibler toutes les provinces. Parce que jusqu'ici, après avoir vu ce qui a été mis par écrit sur le site, le WhatsApp des radios de paroles aux auditeurs, c'est presque la même observation qui revient, les critères de sélection. Pourquoi seulement ce coin et pas les autres? Alors je crois que sur les 300 candidats, moi, je suggérerais, on pouvait dire, par exemple, qu'on prend 26 par province, ça serait 10. Non, ça, si on prend 300 divisé par 26, ça serait moins de 10 même. Donc, le nombre d'abord n'est pas beaucoup par rapport aux besoins du pays, mais on pouvait peut-être lancer seulement l'offre comme ça. Mais quand on dit qu'on commence d'abord ici et là, ça nous pousse, nous maintenant, observateurs, analystes, à nous poser autant de questions sur les critériums de sélection. Mais comme on doit commencer par quelque part, on peut comprendre, mais à l'avenir, on ferait mieux d'étendre un peu la marmite des admissions comme ça, ça pourrait profiter à tout le monde. Mais là, il faut aussi insister sur les sérieux que nous devons mettre pour la suite. Donc, ça ne sert pas de lancer une initiative qui serait politisée et au finish, ça ne serait que quelque chose pour telle famille, pour tel regroupement, pour telle famille politique. parce que l'invité pourra peut-être se défendre, mais il doit aussi se rendre compte que nous sommes des Congolais, nous suivons ce qui se passe chez nous, et quand nous objectons, que ce soit sur place ou à distance, c'est sur base de l'expérience de ce que nous vivons parfois en face. Je crois m'arrêter là. Merci.
Voilà. Merci beaucoup, Franck. Depuis Vienne en Autriche, on revient à notre invité, l'ingénieur Idriss Moufouka Koudié, qui est expert en énergie renouvelable, assistant directeur technique de l'EPP. Vous avez suivi les réactions des uns des autres. Et qu'est-ce que vous en dites?
Alors, du coup, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont intervenu ici. Et on comprend que on est tous conscients de la situation de notre pays. Et merci également pour leur soutien à ces projets. Je vais commencer par la préoccupation de M. Franck. Qu'est-ce qui va se passer après la formation? Cher Franck, j'aimerais vous rassurer que on est Congolais. Évidemment, les craintes que vous êtes en train de soulever, nous sommes conscients. On est Congolais, on connaît comment les choses se passent. Mais nous sommes dans une dynamique avec notre directeur général Godefroy Chimanga. C'est de voir comment nous pouvons nous dire stop, nous regarder en face et changer les choses. Parce que est-ce que le Congo doit continuer ainsi avec les mauvaises habitudes? Je pense que non. Et nous comprenons votre crainte et nous prenons également en compte vos observations. Et nous allons faire en sorte que les choses soient faites d'une manière rationnelle. Et je pense que nous allons revenir encore sur ces antennes prochainement. Et dans le cadre des suivis à mi-parcours du projet.
De vous rassurer sur les 300 candidats qui vont être recrutés. Ça se fera en toute transparence. Il n'y aura pas de favoritisme.
Et effectivement,
les chances seront égales pour tous les candidats.
Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas pour rien que nous avions octroyé un code à chaque candidat. C'est pour permettre à la sous-commission de traiter le dossier en toute rationalité. La question de Monsieur Blaise de Kisangani. Comment faire pour étendre ses projets dans d'autres provinces? Je pense que l'UICEM n'a fait que lancer un goût. Et l'INPP reste ouvert à tout partenaire qui aimerait porter main forte à ses projets. Et il est vrai que notre pays est habité vraiment à cette situation de chômage, mais il faudrait commencer quelque part. Et je voudrais également rappeler ici que la formation professionnelle a beaucoup d'exigences. Entre autres, il faut disponibiliser les équipements. Il faudrait pas avoir un pléthore dans un auditoire. Et toutes ces conditions demandent beaucoup de moyens. Je pense que l'État congolais, le gouvernement congolais peut évidemment apporter main forte pour que nous puissions étendre ces projets dans toutes les provinces, et nous n'allons pas refuser parce que c'est notre travail. La question du docteur Vicard de Kinshasa, tu présentes évidemment le même crainte pour dire est-ce que le projet ne sera pas politisé. Cher Vicard, nous connaissons ces réalités dans notre pays, mais je peux vous rassurer également que nous sommes en train de faire un effort avec les instructions que nous avions reçues de notre directeur général et pour que nous ne puissions pas céder aux antivalères dans le cadre de mise en œuvre de ces projets. Et donc, nous ferons de tout notre mieux et pour que les antivalères, pour que le projet ne soit pas politisé. Et nous profitons également à lancer ces messages à tous les politiciens qui nous suivent également. De ne plus s'ingérer dans la mise en œuvre du projet, mais nous restons techniques et je pense que même au niveau de l'UICEM, et nous avons tous la même vision pour que nous puissions recruter avec objectivité les candidats qui seront formés. Et parce que n'oubliez pas, on ne va pas seulement s'arrêter au niveau du recrutement. On recrute, on forme et ces candidats seront évalués sur le marché de l'emploi. Et si leur prestation ne sera pas à la hauteur, je pense que ça sera un discrédit pour le pays, pour l'INPP, pour l'UICEM et même pour le partenaire financier. Donc, et nous ferons de notre mieux pour que les choses soient très bien faites. Et Monsieur Sylvain qui a dit, mais sur base de quels critères que l'INPP a choisi Kinshasa, Matadi, Kananga et Mbujimayi. Cher Sylvain, nous sommes en partenariat avec UICEM et UICEM est en partenariat également, donc le ministère des Ressources Hydrauliques qui représente les gouvernements dans le cadre de ces projets. Et comme vous le savez, chaque projet a des objectifs et chaque projet a aussi des préférences dans les choix des zones d'implémentation. Et je pense que je n'en serai pas en capacité de répondre à cette question parce que c'est pas nous qui avions choisi ces zones. Et les zones ont été choisies par notre partenaire. Et alors, mais le plus important est de savoir que ces zones font partie également de la République démocratique du Congo. Le gène de Matadi, de Kinshasa, de Mbujimayi et de Kananga, ce sont des Congolais comme tout autre Congolais. Et par contre, nous prenons en compte votre proposition de voir dans quelle mesure on pourra étendre ces projets et surtout dans des zones qui sont frappées par les atrocités de la guerre. Mais je voudrais rappeler que l'INPP, avec d'autres projets, nous avions toujours accompagné le gène des zones qui sont menacées ou influencées par des guerres.
Est-ce que par le passé, l'INPP a déjà eu à initier ces genres de projets financés par une organisation financière telle que soit la Banque mondiale, soit une
autre? Évidemment, à Goma, Bukavu, nous avions accompagné les démobilisés, nous avions toujours accompagné le jeune. Et si vous allez à Goma, il y a tout un incubateur d'entreprises pour les jeunes, à Bukavu également. Et donc, pour dire que l'INPP reste ouvert à tout partenaire qui aimerait travailler avec nous pour accompagner le gène de ces zones. Et je crois que sa dernière préoccupation, c'était sur est-ce que l'INPP est installé dans tous les territoires de la RDC? À nos jours, nous comptons 44 centres de formation disséminés à travers le pays. Nous ne sommes pas dans tous les territoires, mais nous sommes quand même dans toutes les provinces. Et donc, il revient également au gouvernement congolais de donner le moyen à l'INPP de s'implanter dans tous les territoires. Mais je rappelle que l'INPP, c'est un instrument de l'État qui accompagne d'abord les entreprises. Et donc, du fait que le programme de formation de l'INPP sont élaborés en fonction de besoins du marché de l'emploi, et donc, il est important également de tenir compte de ces critères. On ne va pas s'installer dans une zone où peut-être qu'il n'y a pas vraiment de besoin clair en termes d'accompagnement d'entreprise. Et même si nous avons aussi d'une part des formations qualifiantes, et je pense que nous sommes très ouverts, que ce soit les gouvernements provinciaux, les gouvernements centraux, le partenaire financier qui œuvre en RDC, et ils peuvent venir à l'INPP. Nous sommes disposés pour accompagner la vision du chef de l'État dans les cas de la lutte contre les chômages à travers notre pays.
Voilà, on va prendre une deuxième série d'auditeurs et puis on reviendra à vous. Nous avons Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour. Bonjour Martin, bonjour à l'invité, à tous les auteurs de la radio Capi. Ce qu'il dit, c'est fondamental. Et je voudrais apporter peut-être les nouveaux éléments, notamment par rapport, je vais dire, à la complicité de ces projets. Et en suivant l'auditeur tout à l'heure, il ne cible que le ministère hydraulique.
Et pourtant, ces projets pouvaient prendre la complicité ou l'ensemble de quelques ministères, notamment l'électricité, hydraulique, formation professionnelle, et même la santé également. Pourquoi je le dis? Parce que, nonobstant ce qui a été soulevé, notamment des grandes villes, moi je pense également, je suis de ceux qui pensent que les projets également, prochainement, devraient également, dans une urgence, s'installer dans les territoires, voyez-vous, et dans les chefferies ou dans les milieux ruraux, qui permettront à ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas également lettrés. Et il y a l'eau, une qualité d'eau qui est bizarre et qui est mauvaise, et cela permet des maladies diarrhéiques, par exemple. Et si on y associe également le programme national de lutte contre les maladies, c'est pas moi, ministère de la Santé, je pense que ça pourrait donner un peu plus de cutus également. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, monsieur l'invité également, voyez-vous, tout ce qui a été rêvé également du fait de la transparence, je ne vais pas revenir parce que vous avez répondu également, mais seulement, est-ce que vous avez également mis en place un programme de suivi après la formation? Parce que si souvent on lance le programme, on forme, mais le suivi de la dans la mise en œuvre pose un grand problème. Est-ce que vous avez suivi un peu, vous avez mis en place, vous avez réfléchi les post-formation, comment vous allez accompagner ces jeunes qui vont bénéficier également? Et la troisième remarque également réside dans le fait que la conditionnalité d'être certifié ou d'avoir un certificat ou diplôme d'État, je pense que ce critère doit être banni. Pourquoi je l'ai dit? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont capables d'écrire, de faire tout ceci, mais n'ont pas qu'un moyen de pouvoir aller à l'école et pour avoir un certificat d'études ou un diplôme d'État. Et pourtant, ça devrait être la cible, parce que ce sont elles-là qui n'ont pas les diplômes d'État, qui n'ont pas un certificat, qui peuvent s'hasarder à se donner à des activités sobres, à des activités qui n'ont pas un caractère licite, voyez-vous. Moi, je pense que les critères de certificat et diplôme devaient également être...
Voilà, merci. Merci.
Pourquoi pas, mais pas quasiment.
Merci, Maître Patrick.
Et le chef de l'État devait quand même aussi accompagner, et Tshilombo, monsieur, c'est qu'il devait accompagner ces programmes pour permettre que chez moi, à Tshilenge, à Ilitouri,
merci et partout, beaucoup.
Les jeunes puissent bénéficier et qu'il n'y ait pas...
Merci beaucoup, Maître Patrick Odia, depuis le Lubumbashi. On va aller à Bounia pour écouter cette fois-ci notre avocat, je pense bien, c'est Maître Antoine Moulumba. Maître Antoine, vous avez la parole depuis Bounia, on vous écoute.
Bonjour, Marcel Ngombo. Vous me recevez?
On vous écoute, allez-y, il n'y a pas de souci, allez-y.
Oui, je suis encore à Kisangani, hein, Marcel. Bonjour, je suis encore à Kisangani. Bientôt, je vais rentrer à Bouni. Ok. Je vous salue, je salue notre invité et les auditeurs de la radio Capi. Écoute, je serai un peu bref. Hein. Je salue cette initiative. Je voudrais dire ceci. Vous savez, c'est bien, mais il y a quelque chose, parce qu'il y a des questions, par exemple, notre frère de l'Autriche qui a posé la question, Franck, après la formation, il y aura de l'emploi ou pas? Mais moi, je n'ai pas été satisfait. Je n'ai pas eu la réponse de notre invité. C'est pour vous dire qu'il y a déjà, un problème. Il y a un problème après la formation. Mon prédécesseur est revenu d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y aura un suivi? C'est pour vous dire que si réellement il y aura quelque part, si on va caser nos jeunes gens, nos enfants quelque part. Nous saluons, quand bien même cela, nous saluons cette initiative parce que ça va aider à nos jeunes. Parce que tout le monde ne peut pas être aujourd'hui bureaucratique, tout le monde est bureaucrate, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être président de la République. D'ailleurs, quand nous regardons l'Afrique d'aujourd'hui, en général, la République démocratique du Congo en particulier, nous avons besoin de main d'œuvre. L'Afrique et le Congo en particulier a besoin vraiment de main d'œuvre pour le développement.
Voilà, merci mais beaucoup.
Je voudrais faire allusion avec le service national. Bon, vous voyez, avec le service national, nous voyons quand même nos jeunes gens là, Kuluna. Il n'y a même pas Kuluna, Marcel Ngombo. Il y a même des volontaires qui se donnent, qui ont des diplômes, qui vont au service national parce que la porte est ouverte. Ils vont avoir des formations gratuites. Et après, on les encadre quand même. Vous voyez à Kinshasa comment on est en train de livrer des bancs. Hein. Ils sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs. C'est ce que nous voulons quand même que INPP-ISM puisse aller un peu, qu'il continue, qu'il aille un peu en avant.
Chercher. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter par là pour donner aussi l'occasion à notre invité de réagir. Merci d'avoir appelé depuis Bounia. On va prendre les deux derniers auditeurs, Jérémy Mamba qui nous appelle de Bombashi et puis Alphonse Chimanika qui est à Kindu. Jérémy Mamba, vous avez la parole. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit avant vous, on vous écoute, Jérémy Mamba.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour également à l'invité. Ouais, je voudrais aller tout droit au but. D'abord, d'emblée, je salue les initiatives de l'INPP ainsi que de l'IOCM, mais je voudrais ici m'intéresser sur certaines choses. Déjà, avec l'impulsion du chef de l'État pour un décompte contre le chômage, c'est un point positif. Mais là où les bas blessent, c'est que on assiste toujours à les inégalités sociales sur ce plan, ou soit les inégalités de chance pour ceux-là qui doivent œuvrer. C'est là que je voudrais ici demander à ceux-là qui trouvent de l'occasion pour faire la propagande de ne pas donc trouver une occasion, parce que là, c'est la banque qui a financé, la Banque mondiale qui a financé, et par conséquent, nous ne voulons pas voir des responsables, par exemple, dans des provinces, donc, c'est-à-dire engager ceux-là qu'on appelle les crieurs qui sont à travers, dissimulés à travers les avenues pour pouvoir, n'est-ce pas, être pris en compte. Nous voulons voir, c'est à cela que je voudrais demander que l'on puisse aussi soit s'investir dans les secteurs des transports où on trouve beaucoup ces gens-là qui sont presque inciviques et qui ne sont pas instruits, qu'on puisse les canaliser là-bas pour être formés dans le secteur des transports. Et dans les secteurs comme celui-ci, nous voulons voir, nous avons beaucoup de diplômés qui chôment. Alors, moi, je pense qu'il fallait cibler ces diplômés et donner la chance à ceux qui ont des certificats de continuer avec les études professionnelles, comme c'est le cas des filles. Et là, nous allons équilibrer les choses. On ne veut pas, pour que ces gens-là, on dit, voilà, ceux qui sont dans des partis politiques, les jeunes gens-là, aller en formation parce qu'on va vous donner du travail. Non, ce n'est pas du bureau, voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est pas, beaucoup. On peut se lever le matin, on a du travail, non.
Voilà, c'est compris. Merci beaucoup Jérémy Mamba depuis le Bombashi. Et puis le tout dernier, Alphonse Chimanika depuis Kindu. Alphonse, je vous accorde, désolé d'intervenir en dernier lieu, je vous accorde une minute pour permettre à l'invité de réagir. Allez-y Alphonse, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité, bonjour encore à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Capi. Je suis Alphonse Chimani Kantumba, depuis la ville de Kindu, étudiant de Kindu. Tu m'as fait essayer en partie, hein, parce que quelque chose ont été dites par ceux qui m'ont précédé. Oui. Je vais tenter de verser ma petite goutte d'eau. Je tiens d'abord à saluer cette initiative vraiment ambitieuse, hein, qui vise vraiment à former 300 jeunes Congolais au métier d'huile verte. Mais dans le secteur clé d'électricité de l'eau, vous-même, vous savez, dans un pays où les taux de chômage de jeunes demeurent alarmants, ce genre de formation constitue une bouffée purement d'oxygène. Non seulement en l'air offrant des compétences techniques et entrepreneuriat, mais aussi en jetant leur base, n'est-ce pas, d'un avenir professionnel plus durable, voire même l'accent mis sur les emplois verts, est particulièrement pertinent au regard des enjeux environnementaux et purement énergétiques.
Donc, en termes clairs, ces projets louables pour vous, c'est bien cela. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez peut-être aimé dire pour que ce projet puisse vraiment rendre un service utile là, par rapport à ceux qui estiment qu'il faut éviter qu'il y ait manque de transparence, d'apprentissage? Vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça rapidement?
Oui, monsieur Marcel, je vais aller trop vite. Hein. Bon, c'est essentiel que le critère de sélection soit communiqué.
Mais on l'a déjà dit, oui.
De manière claire, pas même équitable, trop souvent. Mais des jeunes motivés et méritants même sont écartés sans explication, alimentant une frustration croissante et un sentiment même d'injustice.
Voilà. Merci. On va s'arrêter là. On n'a plus assez de temps, Alphonse, mais vous souhaitez, comme tout le monde, la transparence par rapport à cette campagne de recrutement pour la formation des jeunes au métier, le secteur de l'eau et de l'électricité. Idriss Moufouka, vous allez réagir rapidement. Il y a des questions pour lesquelles vous avez déjà répondu.
Rapidement, je tiens à remercier tous les auditeurs, tous les intervenants. Et on sent que tout le monde est vraiment conscient qu'il faudrait que nous puissions tous travailler pour le développement de notre pays. On prend en compte les propositions de M. Alphonse, M. Jérémy, Et je pense que nous allons revenir ici et tout au long de ces projets et jusqu'à l'insertion professionnelle. On fera un effort pour qu'aucun cas de discrimination ou injustice soit observé pendant la mise en œuvre de ces projets. Alors, il y a Maître Antoine.
Antoine, oui.
Oui, Maître Antoine Debougna, qui est revenu sur la question d'après la formation. Je crois que j'ai déjà répondu. Déjà, en formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les suivis post-formation. Donc, la formation, elle est dite professionnelle. Et si l'aspect suivi post-formation est pris en compte. Et je pense que dans les termes de référence des, je ne pense pas, mais c'est ce qui est écrit, dans les termes de référence de ces projets, il est prévu l'octroi des kits de sortie aux sujets qui seront formés. Et donc, ça veut dire que le projet, au-delà des compétences techniques qui seront transférées, il y aura également des compétences entrepreneuriales. C'est une manière, on associe les kits de sortie, c'est effectivement pour accompagner ces mécanismes d'insertion. Et l'idée d'abord, c'est de pousser ces jeunes à créer leurs petites entreprises, leurs petits ateliers. Et nous, on pourra créer une passerelle de collaboration avec les entreprises ou encore le particulier qui auront besoin de ces services. Ça, c'est de un. D'aider, il faudrait savoir que le projet Agré est en train de financer ou d'accompagner la construction des ouvrages énergétiques dans les différentes provinces citées ici. Et il y aura également besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Je vous donne un exemple de Mbujimaï qui aura 90 mégawatts de solaire, et ça sera pas moins de 50 techniciens qui seront employés dans ces projets. Et mais quand vous regardez la configuration de cette ville, il y a pas assez d'écoles techniques, il y a pas assez d'écoles d'ingénieurs, et donc ces projets se positionnent déjà en amont comme une réponse à ses besoins de la main-d'œuvre.
Bon, on est déjà presque à la fin, donc
avec ce que Monsieur Patrick a dit, oui. Si on pouvait intéresser d'autres ministères, je pense qu'on est passé sur les antennes de la Radio Capi. Évidemment, c'est pour lancer un appel à tous ces ministères, aux bailleurs des fonds qui travaillent dans notre pays, que ce soit dans les secteurs de l'environnement ou dans les secteurs de l'énergie, pour que tous ensemble nous puissions mettre la main dans la pâte pour lutter contre les chômages des jeunes, mais également participer à la remédiation de la problématique de la main-d'œuvre qualifiée à travers le pays.
Voilà, merci. Idriss Moufouka Koudié, expert en énergie renouvelable, assistant directeur technique de l'INPP, assistant de préparation professionnelle. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci, cher Marcel.
Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui était à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé, coordonné, à Paul Badianyama de l'équipe multimédia. C'est grâce à lui que vous avez pu suivre ce magazine en direct sur le plateforme digitale du Radio Capi, à savoir YouTube, X et Facebook. Un micro, c'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.